programme à Azimut.
Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'un prix littéraire, le prix Azimut. Ce prix est proposé à tous les lycéens de français de la zone Asie-Pacifique, de la 6e à la 5e. Chaque année, nous pouvons lire 5 livres sur le thème donné et voter notre ouvrage préféré. Les ouvrages qui sont proposés sont Ulysse 15 de Christine Havel, La famille Pomerol de Valentine Gomis, Le jour où j'ai trouvé un trésor de Séverine Vidal, L'homme bonsaï de Fred Bernard, Christophe Colomb, d'Hélène Kirillis. Autour de la table, nous retrouvons Laszlo, Alix, Louis Fritsch, Édouard, Hugo, Ambroise, Édouard, Clément Jacquet, Clément Basquin et Louis Picard. Maintenant, Amélie va nous présenter Ulysse 15.
Bonjour, je m'appelle Amélie et aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Ulysse 15. Ulysse 15 est un roman écrit par Christine Havel et illustré par Jean-Luc Englebert. L'éditeur de ce livre est Neuf de l'École des Loisirs. Sur la page de couverture, on peut voir Ulysse, le personnage principal du livre, et son chat Farine. J'ai choisi ce livre car ce livre parle des chats et j'aime les chats, et aussi parce que l'aventure du livre semblait intéressante. Maintenant, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Alors, l'histoire parle d'Ulysse, un petit garçon qui déteste l'aventure et qui préfère rester tranquille à la maison avec son chat Farine. Mais un jour, celui-ci disparaît et Ulysse est prêt à faire tout pour le retrouver. Sa quête pour retrouver Farine le mène partout dans son quartier qu'il découvre pour une deuxième fois. J'ai beaucoup aimé ce livre car Ulysse adore son chat et fait tout pour l'aider. Et aussi car j'ai aimé l'aventure d'Ulysse quand il redécouvre son quartier. L'histoire est courte et simple, mais très agréable à lire. En conclusion, Ulysse 15 est un livre super et j'espère que vous l'aimerez beaucoup comme moi.
Merci beaucoup Amélie. Maintenant Anne-Sophie va nous lire un passage d'Ulysse 15. À toi Anne-Sophie.
Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et je vais vous lire le passage où il raconte l'histoire de Farine. Farine est mon meilleur ami. On a les mêmes goûts. Je préfère rester tranquille, voir la nuit tomber et le câliner. Farine aime paraisser au soleil, attendre sa pâtée et ronronner près de moi. Quand je l'ai trouvé dans la rue, il était encore qu'une mignonne boule de poils noirs, avec une minuscule tache blanche sur le bout du museau. Mes parents ne voulaient pas d'un chat à la maison. J'ai dû les supplier. Mamie dit qu'un animal c'est excellent pour l'équilibre affectif. Ils n'ont rien trouvé à répondre. Cette fois, depuis, Farine a triplé de volume. Mais il est plein de santé et non pas grassouillé comme les petits crottins de ma mère. Mon père dit que les chats ont un regard inexpressif. C'est archi faux. Quand je le fixe bien, Farine plie ses yeux et on se comprend parfaitement. Farine est très intelligent. J'adorerais être un chat moi aussi. Les chats sont sages. Ils peuvent passer une journée sur un canapé. Ils détestent l'eau et ne montent jamais sur un bateau.
Merci Anne-Sophie. Maintenant, au tour d'Edouard et de Louis Fritsch, de nous présenter Le mensonge de la famille Pomerol. À vous.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter Le mensonge de la famille Pomerol.
Bonjour, je m'appelle Edouard. C'est un livre écrit par Valentine Gomis et illustré par Lily Cortina. Il est publié par les éditions Thierry Magnier.
Il fait partie du prix Azimut 2017.
Il raconte l'histoire d'une famille de menteurs qui a prévu de partir en Chine pour les vacances d'été.
Mais au dernier moment, le père se retrouve au chômage. Et patatras, les vacances sont annulées. Les membres de la famille Pomerol sont prêts à tout pour ne pas perdre la face vis-à-vis de leur entourage et de leurs voisins.
Ils préparent alors un énorme mensonge et s'enferment pendant plusieurs mois dans leur maison pour faire croire qu'ils sont en Chine.
Pendant ces longs mois de mensonges de la maison, les Pomerol font tout pour faire croire qu'ils sont en Chine. Ils se bronzent en dessous de la lucarne, traficotent des photos, prennent d'énormes précautions pour ne pas faire de bruit, enferment leur prévoqué à la cave.
Le personnage principal est Juliette, la fille de la famille. C'est elle le narrateur et elle nous raconte de façon assez comique ses aventures.
C'est un livre super rigolo que nous avons adoré et que nous vous conseillons vraiment de lire. Il est amusant et rigolo. Nous vous laissons découvrir la suite.
Merci beaucoup. Maintenant, au tour d'Alix qui va nous lire un passage de la mensonge de la famille Pomerol.
Bonjour, je vous lis une partie de la famille Pomerol. Cette partie
parle de quand les premiers jours de dans la maison. Le premier jour, tout est nouveau, comme dans un vrai voyage. Nouveauté 1, la maison du silence. On marche pieds nus pour ne pas éveiller les soupçons du voisin. Marcher pieds nus, on le faisait avant déjà. Ce n'est pas ça qui en a chargé. La nouveauté, c'est que c'est devenu obligatoire. On descend l'escalier avec des précautions extrêmes et on évite les lattes grinçantes du parquet marquées d'une croix d'adhésif rouge par mon père. Évidemment, on ne met pas de musique ou bien on branche un casque. Pareil pour la télé. Jaco, le perroquet le plus bavard de la terre, vit provisoirement au sous-sol derrière une double porte, dans le noir une bonne partie du temps pour qu'il ait plus envie de dormir que de jacasser. Il est interdit de claquer les portes, de se héler entre les étages, d'utiliser le mixeur, le sèche-linge, de bricoler. Les habitants dans cette maison chantent des paroles muettes en remuant leurs têtes casquées et miment les cris des supporters devant les matchs de foot. Ils sursautent à chaque fois qu'ils se croisent dans un couloir, comme si un fantôme ou un zombie venait de surgir. Ils tressaillirent quand retentissent la sonnerie du téléphone ou la sonnette extérieure. Mais on n'ouvre pas, on ne répond pas. On est en Chine.
Merci beaucoup, Alix. Maintenant, ça va être à Louis Picard et à Hugo qui vont nous présenter l'homme bonsaï.
Yo tout le monde!
C'est Hugo et Louis.
Et aujourd'hui, on va vous présenter l'homme bonsaï.
De Fred Bernard et François Roca.
Le capitaine O'Murphy raconte aux buveurs d'une taverne son extraordinaire rencontre lors d'un périple en mer avec l'homme bonsaï, cette créature mi-homme, mi-arbre, au destin tragique.
Il y a plusieurs années, lors d'un voyage en mer, à la barre du narval, le capitaine O'Murphy voit surgir, entre rafales salées et déferlantes, un arbre gigantesque qui semble narguer. La surprise est des plus totales lorsqu'au lever du jour, il constate que le végétal en question est majestueusement planté dans la coque d'un vieux vaisseau.
Il ne faut pas longtemps alors au vieux marin pour se lancer à son accostage en compagnie de deux matelots. À bord, les trois hommes pensent avoir perdu la raison lorsque l'énorme feuillasse se met à parler et leur raconte sa bien étrange histoire.
Amédée, le potier, fut enrôlé de force sur un bateau de commerce. Il croise un jour de malchance le navire du terrible pirate, le capitaine Strock. Épargné par le massacre qui suit cette triste rencontre, le jeune mousse subit un sort bien plus pénible que la mort. Il devient pendant des mois le souffre-douleur du boucanier, avant finalement d'être abandonné sur une île désertée.
Sur cette île, en passant sous un arbre géant, il sent une graine lui tomber sur la tête. Très lentement, cette graine pousse au milieu de ses cheveux jusqu'à devenir un arbre.
Recueilli par des pirates chinois, il est soigné et devient leur arme la plus meurtrière car l'homme, arbre, effraie tous les équipages pour mieux l'épiler. Même le féroce capitaine Strock n'y résiste pas. Mais les Chinois finissent par abandonner à son triste sort, en pleine mer, l'homme devenu arbre.
Aussi, lorsqu'il croise le capitaine O'Murphy, Amédée lui demande de mettre fin à ses jours. Alors moi, j'ai trouvé que l'histoire était amusante et intéressante.
Je suis d'accord avec Louis, mais juste, j'ai trouvé que l'histoire pouvait être un peu plus longue. Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup. Maintenant, on va avoir le débat de Clément Jacquet, Clément Basquin et Edouard. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous présenter un débat sur l'homme bonsaï qui parle de comment est-il devenu un arbre. Comment tu commences?
Donc, moi, je dis qu'à la fin, l'arbre, il a trop poussé. Et du coup, il s'est emparé de son corps et il est devenu... et il a essayé de le couper. Car il avait commencé à emparer de son arbre, donc il a essayé de le couper. Et l'arbre a directement fait pousser plein de racines. C'est comme ça qu'il a grandi et qu'il est mort.
Moi, je pense plutôt que l'arbre a dû s'emparer de lui. Et du coup, son corps et tout ça, c'est devenu du bois. Et du coup, l'arbre a poussé et est devenu un énorme arbre.
Moi, je suis d'accord avec Edouard. Parce que c'est vrai que l'arbre, il prend le contrôle total. Du coup, il fait pousser, il prend les racines. C'est du bois quasiment sa peau.
Merci beaucoup pour ce bon débat. Maintenant, nous allons écouter la présentation de Laszlo qui va nous présenter Christophe Colomb. À toi, Laszlo.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui m'a très bien plu. Ce livre s'appelle Christophe Colomb et qui est écrit par Hélène Kérigny. C'est l'histoire d'un jeune mousse qui s'appelle Rodrigo qui va découvrir avec Christophe Colomb au monde où ils vont découvrir les habitants de ces nouvelles terres, qui sont des Indiens. Peu à peu, ils deviennent amis avec eux.
Il découvrit donc leur vie quotidienne. Mais comme les Indiens savent qu'il y avait de l'or quelque part, le capitaine de la Pinta est parti tout seul avec son équipage pour chercher l'or pour lui-même. J'aimais beaucoup ce livre car j'adore les aventures de Christophe Colomb. Maintenant, je vais vous lire un passage. En fait, c'est le passage où, où l'équipage menace le capitaine de mort, où ils veulent le jeter par-dessus bord, et où Rodrigo intervient. Il y eut un moment de stupeur. Se débarrasser du capitaine, c'était risqué. La peine de mort au retour, si le retour il y avait. Tous les marins étaient-ils prêts à courir un risque pareil? En tout cas, Christophe Colomb comprit qu'il ne se tirait pas avec la promesse de l'or. Il leva les bras pour réclamer le silence et dit « Soit, si d'ici 2 jours au plus tard nous n'apercevrons pas la terre, je m'en remets à votre décision. Nous ferons demi-tour. » Il y eut encore quelques protestations. À quelle distance était-on de l'Espagne? Colomb voulut faire taire les derniers récalcitrants. Il alla chercher le livre de bord et appela Rodrigo. « Lis à toutes les distances notées ici, que chacun sache que le retour est possible. » Car la distance n'est pas si grande que vous imaginez. Poussé par les marins, Rodrigo se retrouva à côté de l'amiral qui lui remit le livre entre les mains. Le garçon avala sa salive avec difficulté.
Merci beaucoup, Laszlo, pour cette bonne présentation. Maintenant, nous allons laisser place à Ambroise et Mathias qui vont nous présenter le jour où j'ai trouvé un trésor. À vous.
Bonjour à tous. Nous nous retrouvons avec Mathias pour vous présenter le jour où j'ai trouvé un trésor. Et comme vous a dit Elsa, il fait partie du prix Azimut 2017.
Ce livre est écrit par Séverine Vidal et la maison d'édition est Ozo Roman. L'âge conseillé est des 9 ans.
Et l'illustrateur est Vincent Sorel.
Alors, c'est l'histoire de Robinson,
qui est le personnage principal,
et qui part dans un voyage autour du monde comme son père l'avait fait avant lui.
En fait, il va partir sur un bateau qui s'appelle Cafouille. Et son père, qui avait fait exactement le même voyage dès qu'il avait 9 ans, donc le même âge que Robinson maintenant. Donc, il a semé des objets à chaque étape de son voyage pour après que ses fils retrouvent ces objets avec des mots à l'intérieur pour peut-être retrouver un trésor à la fin. Donc, en gros, c'est une énorme chasse au trésor dans tout le monde.
Donc, ils vont visiter la Jamaïque,
Montego Bay, l'Amérique, à New York, ou aussi Lisbonne, et plein d'autres pays magnifiques, et tout autour du monde. Il part pour 1 an en bateau. Le seul problème, c'est qu'il n'est vraiment pas content, parce que, premièrement, il veut pas lâcher son groupe de rock qui s'appelle Paranormal. Après, il veut pas lâcher le wifi et le téléphone. Et troisièmement, il veut pas lâcher ses copains pendant 1 an. Donc, en gros, vous connaissez la réaction, il est hyper énervé, et pendant tout le début du voyage, il est vraiment pas content. Au bout d'un moment, il s'habitue quand même à ce voyage merveilleux pour lui.
Moi, j'ai bien aimé ce livre, même s'il était un peu court. Alors, j'ai bien aimé les illustrations.
Et moi, j'ai bien aimé aussi les énigmes à résoudre qui sont énoncées dans le texte. Les réponses sont dans le texte, mais le jeu, c'est quand même de trouver la réponse avant de la lire.
Merci beaucoup pour cette bonne présentation. Alors, nous remercions nos ingénieurs du son, c'est-à-dire Louis Fritsch, nos modérateurs Édouard, Hugo et Louis P. Et bien sûr nos intervenants Laszlo, Alix, Louis Fritsch, Édouard, Hugo, Ambroise et Mathias. Et bien sûr un grand merci à Madame Gilbert qui a rendu possible cette radio. Merci tout le monde.